conseil lecture, une bibliothèque idéale, comme un palais dans lequel on installe une bibliothèque. Quelques rayonnages de fortune, placer les livres qu'on aime pour les retrouver, car ils nous rappellent ce que nous vivons parfois dans le moment présent. Et oui, les conseils lecture de la bibliothèque idéale. Et oui, les livres nous rappellent parfois ce que nous vivons dans le moment présent. Et puis, ils nous rappellent aussi que nous avons, dans le moment présent, des pensées en souvenir du passé, évidemment. Et puis, des projections sur l'avenir. Quel bon moyen que d'utiliser un livre de poésie. Par exemple, je vais vous parler de ce grand auteur de poésie du siècle dernier, Henri Michaux. Plume précédée de Lointain intérieur chez Poésie Gallimard. Eh bien, Henri Michaux, c'est un auteur de poésie qui devait être médecin et qui, dans sa cinquième année de médecine, a décidé de devenir poète. On trouve à travers son écriture quelque chose de loufoque, quelque chose de drôle, quelque chose de poignant et aussi quelque chose de tout simplement beau. Il a un lyrisme absolument incroyable puisqu'on parle du chant du poète lorsqu'on lit de la poésie. Jusqu'au seuil de l'adolescence, il formait une boule hermétique et suffisante, un univers dense et personnel et trouble où n'entrait rien, ni parents, ni affection, ni aucun objet, ni leur image, ni leur existence, à moins que ne s'en servît avec violence contre lui. En effet, on le détestait, on disait qu'il ne serait jamais homme. Voici ce qu'il écrit et voici ce qu'il essaye de nous délivrer comme message lorsque ça résonne parfois en nous. Il cherche la jeunesse à mesure qu'il vieillit, il l'espérait, il l'attend encore, mais il va bientôt mourir et peut-être renaître. Les autres ont tort, cela est sûr, mais lui, comment doit-il vivre? Toujours agir avant de savoir. Son père avait ceci pour idéal, se retirer, jamais il n'eut rien d'offrant, il était prudent, très prudent, d'humeur égale et triste. Il s'effaçait parfois comme une tache, il avait aussi de ces énervements terribles, douloureux et extrêmement rares, comme en ont les éléphants lorsque, quittant une tranquillité qui leur a coûté des années de surveillance, ils s'abandonnent à la colère pour une bagatelle. Ah, doit-on être viré du lieu où on a fabriqué son nid ? Alors pour disloquer la boule, il y avait aussi le froid et le vent du nord qui est dur et souverain dans ce pays parfaitement plat, où il passe comme un rasoir. Jamais on ne s'adressa à la joie pour lui. Alors il a une vision, effectivement, c'est Henri Michaux, qui peut paraître un petit peu dark, voire un peu triste, mais en même temps c'est un regard lucide et aiguisé comme le vent du nord dans le plat pays. Nous vivons tous ici, la gorge serrée. Savez-vous que quoi ? Que très jeune, autrefois, il y avait des jeunes encore dans nos campagnes, pareillement. Qu'est-ce que cela signifie ? Il y a sûrement quelque chose d'affreux qui se s'est passé entre-temps. Il disait ça en 100 ans. Ça peut s'appliquer encore aujourd'hui. C'est ce qui est incroyable. La poésie devient universelle avec la plume d'Henri Michaux. Et lorsque ces mots atteignent nos cordes vocales, eh bien, c'est juste une félicité. Il a un personnage aussi, un personnage un peu loufoque qu'il appelle Plume. Plume au plafond, par exemple. Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond, au lieu de les garder à terre. Hélas, quand il s'en aperçut, il était trop tard. Déjà paralysé par le sang, aussitôt amassé, entassé dans sa tête comme le fer, dans un marteau, il ne savait plus quoi. Il était perdu. Avec épouvante, il voyait le lointain plancher, le fauteuil autrefois si accueillant, la pièce entière étonnant. D'abîme. Comme il aurait voulu être dans une cuve pleine d'eau, dans un piège à loup, dans un coffre, dans un chauffe-bain en cuivre, plutôt que là, seul, sur ce plafond ridiculement désert et sans ressources, d'où redescendre lui était, eh bien, autant dire se tuer. Eh bien oui, le problème de la gravité, la loi de la gravité, malheur, malheur, toujours attaché au même, tandis que tant d'autres dans le monde entier. Continuer à marcher tranquillement à terre, qui sûrement ne valait pas beaucoup plus cher que lui. Si encore il avait pu entrer dans le plafond, y terminer en paix, quoique rapidement sa triste vie. Mais les plafonds sont durs, vous savez, et ne peuvent que vous renvoyer. C'est le mot. Pas de choix dans le malheur, on vous offre ce qui reste, comme désespérément il s'obstinait top de plafond. Une délégation du Brain Club partie à sa recherche le trouva en levant la tête. On le descendit alors sans mot dire par le moyen d'une échelle dressée. On était gêné, on s'excusait auprès de lui, on accusait à tout hasard un organisateur absent. On flattait l'orgueil de Plume, Plume qui n'avait pas perdu courage, alors que tant d'autres, démoralisés, se fussent se jeter dans le vide et se fussent se casser bras et jambes, et davantage, car les plafonds dans ce pays sont hauts, datant presque toutes de l'époque de la conquête espagnole. Plume, sans répondre, se brossait les manches avec embarras. Bon, bref, vous avez vu ce personnage de Plume dans la poésie d'Henri Michaux. Vous pouvez le retrouver dans Plume, Henri Michaux, précédé de Lointain intérieur, chez Poésie Gallimard. La bibliothèque idéale. La suite. Conseil lecture. Une bibliothèque idéale, comme un palais dans lequel on installe une bibliothèque. Quelques rayonnages de fortune, placer les livres qu'on aime pour les retrouver, car ils nous rappellent ce que nous vivons parfois dans le moment présent. Henri David de Thoreau, résister à la tentation du laisser-faire, au réformisme, à l'esprit commercial des temps modernes. Traduction de l'anglais par Thierry Gillibeuf, un recueil inédit. Sous ce titre, résister, Henri David de Thoreau sont regroupés plusieurs essais inédits de cet auteur, dont je viens de vous citer le nom et que je recite une troisième fois, Henri David Thoreau, qui vient compléter et prolonger sa théorie philosophique développée dans sa fameuse désobéissance civile. Thoreau, qui ne fut pas l'ermite dans les bois que la postérité voudrait voir en lui, mais un acteur des combats politiques de son temps, dénonce les risques d'un pacifisme passif, s'en prend aux conservateurs et réformateurs de tout poil et prône un engagement concret, parfois jusqu'au boutiste, qui surprendra plus d'un de ses lecteurs, bien qu'adepte d'un transcendantalisme individualiste. Il n'a cessé de réfléchir à la façon d'améliorer la société et le gouvernement. C'est édité chez Mille et une nuits, résister Henri David Thoreau, à la tentation du laisser-faire, au réformisme, à l'esprit commercial des temps modernes. Lorsque David Thoreau donne sa vision des choses, ça se passe à une certaine époque. Un aubergiste, sous le seul mot de maison où inclut l'école, l'hospice, la prison, la taverne et la demeure, le moindre abri ou la moindre grotte dans laquelle vivent les hommes, contient des éléments de tous ces endroits. Mais nulle part sur terre ne se dresse la maison entière et parfaite. Le Parthénon, Saint-Pierre, la cathédrale gothique, le palais, la masure ne sont que les réalisations imparfaites d'une idée imparfaite. Qui voudrait y habiter ? Peut-être aux yeux des dieux, la chaumière est-elle plus sacrée que le Parthénon, car il jette un regard sans complaisance particulière sur les sanctuaires qui leur sont officiellement dédiés, mais qui devraient être le toit sacré abritant la majeure partie de l'humanité. S'il est une évidence, c'est que les dieux s'intéressent le plus au genre humain, veillent sur la taverne où les hommes aiment davantage à se rassembler. Il me semble voir briller au loin, dans tous les pays, les milliers de sanctuaires consacrés à l'hospitalité, mais aussi bien mahométans et juifs que chrétiens, khanes, caravans, sérails et auberges auxquelles ont recours tous les pèlerins sans distinction. Voilà un extrait d'Henri David Thoreau, résister à la tentation du laisser-faire au réformisme, à l'esprit commercial des temps modernes. C'est édité aux éditions Mille et une nuits. La bibliothèque idéale, la suite. conseil lecture, une bibliothèque idéale, comme un palais dans lequel on installe une bibliothèque. Quelques rayonnages de fortune, placer les livres qu'on aime pour les retrouver, car ils nous rappellent ce que nous vivons parfois dans le moment présent. Et les contemplations, parlons-en des contemplations. Victor Hugo, les contemplations, évidemment, beaucoup d'entre vous, vous connaissez évidemment ce recueil de poésie, cette série de poésie rentrée dans l'universalité de la poésie, les contemplations par Victor Hugo. Dans une édition, je voulais vous parler aussi de l'objet. Si vous êtes curieux, vous pouvez chercher les éditions Nelson. C'est une petite édition qui est juste magnifique. C'est un bel objet. C'est important aussi de transporter des beaux objets, de les échanger. C'est un recueil qui a été offert par un passant anonyme qui a déposé ça dans ces petites boîtes qu'on trouve dans toutes les villes de France et de Navarre, où on trouve des fois quelques petites perles comme ça. Elle était déchaussée, oui, elle était déchaussée, cette petite bibliothèque, et puis on l'a rechaussée, tout simplement. Elle était déchaussée, comme dans le poème de Victor Hugo, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants. Moi, qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême, qui reste à la beauté, quand nous en triomphons. Et je lui dis « Veux-tu ?» C'est le moi où l'on aime, « Veux-tu ?» nous en aller sous les arbres profonds. Elle s'essuya ses pieds à l'herbe de la rive, elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers. Elle était déchaussée, tiré des contemplations de Victor Hugo. Et puis par la même occasion, évidemment, vous pouvez trouver évidemment des rééditions dans beaucoup de nos éditions françaises. Mais aussi, évidemment, vous pouvez aussi vous procurer, aller faire un petit tour du côté des éditions Nelson. C'est une édition spéciale qui a été créée en Écosse, à Édimbourg. Et puis ensuite, ils ont ouvert une succursale à Londres et à New York. C'est une édition qui a été créée au début du siècle dernier. C'est bien d'avoir des beaux objets aussi sur des grandes œuvres de la littérature et de la poésie. C'est bien d'avoir quelque chose qui est beau. C'est beau, le beau. La suite de la bibliothèque idéale. La bibliothèque idéale, des conseils lecture et puis l'envie de rêver un petit moment avec vous. On va poursuivre avec deux autres recueils et livres qui peuvent rentrer dans la bibliothèque idéale. Dans votre bibliothèque idéale. Les livres dont vous n'avez plus besoin, vous pouvez aussi les faire circuler. Les livres, la littérature, la poésie, la culture en général, c'est comme l'amour et c'est comme l'argent, c'est fait pour circuler. Allez, on va commencer le début de la fin de cette chronique avec Christian Bobin. Christian Bobin, La présence pure et autres textes chez Poésie Gallimard. Chez nous, très peu d'histoires. Nous avons eu nos rois, ils se sont couronnés, ils se sont jalousés, ils se sont entretués. Au bout de plusieurs siècles, ils ont disparu sans plus laisser de traces que la poussière soulevée par les sabots de leurs chevaux. Il arrive qu'un paysan brise le soc de sa charrue sur un de leurs tombeaux. Il déterre les bijoux de métal jaune et les squelettes d'os blanc. Il les jette un peu plus loin, puis revient à son travail, à peine contrarié par ce retard. Après, les rois, nous avons eu des prêtres. Ils ont joint leurs mains fines, ils nous ont bénis, puis ils nous ont maudits. Au bout de plusieurs siècles, ils ont disparu, sans plus peser sur notre mémoire que le frisson de leurs prières. Il arrive qu'un enfant déniche la statue d'un ange ou d'un diable près d'une source. Il la porte chez lui, la montre à ses amis. On fait offrande au dieu de quelques jouets, on lui récite quelques comptines, puis on se lasse, on jette le diable au fond d'un trou, on oublie l'ange dans un grenier. Chez nous, pas de sagesse, pas de folie. La présence pure et autres textes par Christian Bobin aux poésies Gallimard. Christian Bobin est un poète français qui écrit des poésies depuis de nombreuses années. Il est édité chez Gallimard. C'est vraiment un auteur qu'il faut lire parce qu'il commence toujours par une histoire qui est vraie. Elle est arrivée à un de ses amis, à sa compagne, à son père. Il ramène une part de réalité et nous fait rêver en nous racontant les choses. Comme disait Pagnol, je ne mens pas, j'embellis la vie. Alors si vous voulez vous embellir la vie et vous embellir aussi l'esprit, voire même peut-être l'âme, parce que Christian Bobin est très spirituel, je vous conseille de lire Christian Bobin, La présence pure et autres textes. Autre texte de notre temps. La suite de la bibliothèque idéale. Allez, dernier petit conseil, peut-être dernière petite influence pour que vous puissiez lire Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Alors, Étienne de la Boétie a 18 ans lorsqu'il écrit ce texte qui est absolument sublime. Sublime parce que un jeune homme de 18 ans qui porte un tel regard sur le monde... C'est juste, on frôle carrément le génie. Cet Étienne de la Boétie parle de la servitude des peuples qui est volontaire, qui accepte le joug des puissants et qui vont ainsi à l'encontre de leur nature. Pour se libérer de l'emprise du tyran, nul besoin de violence, il suffit aux hommes de se faire amis plutôt que complices, écrit en 1548, alors que la Boétie n'a que 18 ans. Ce texte, également appelé « Contraint », s'inscrit dans le renouvellement de la sensibilité politique au XVIe siècle et cherche dans les comportements individuels les causes de la tyrannie. Ah, sujet, grand sujet qui a traversé les siècles et qui nous a rejoint jusqu'en 2022, là maintenant, 12h29, le 16 février 2022, on est encore concerné. Il est suivi de la liberté chez les anciens et chez les modernes, donc le discours de la servitude volontaire. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, tel est le sous-titre. Il est suivi donc ce texte de la liberté chez les anciens et chez les modernes. Trois siècles plus tard, Benjamin Constant montre qu'à chaque forme de liberté correspond une forme de servitude, inexistence des libertés individuelles, chez les anciens, abondant de la sphère politique chez les modernes, un discours fondateur de la pensée libérale, ses propos d'une modernité étonnante sont illustrés par la célèbre fable de La Fontaine, le loup et le chien. Étienne de la Boétie, 1530-1563, humaniste et poète français, il est souvent considéré comme le premier des modernes. Ses amitiés avec Montaigne est passée à la postérité grâce aux essais dans lesquels ce dernier lui rend hommage. J'ai l'édition de chez Librio et en plus ça coûte pas cher, ça coûte 2 euros et ça peut bien vous cultiver. Que dit-il à propos des tyrans ? il repart vers les anciens. Les tyrans romains s'avisèrent encore d'un autre moyen, celui de festoyer souvent lors des décuries, trompant dans les règles de l'art cette canaille qui se laisse aller, plus qu'à toute autre chose, au plaisir de la bouche. Le plus averti, le plus habile d'entre eux n'aurait pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient cadeau d'un quart de blé, d'un setier de vin et d'une sesterce. Et c'était pitié alors de les entendre crier « Vive le roi !» Ces lourdeaux ne s'apercevaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une partie de leurs biens et que cela même qu'ils recouvraient, le tyran n'aurait pu le leur donner s'il ne leur avait ôté de prime à bord, tel ramassé aujourd'hui le sesterce et faisait bombance lors du festin public en bénissant Tibère et Néron pour leur belle générosité qui le lendemain contraint d'abandonner ses biens à leur cupidité, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ses empereurs magnifiques, ne parlait plus qu'une pierre, ne remuait pas plus qu'une souche. Il en a toujours été ainsi du peuple, au plaisir qu'il ne peut recevoir honnêtement, il est tout disposé et dissolu, au tort et à la douleur qu'il ne peut honnêtement supporter, il demeure insensible. De nos jours, je ne connais personne qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce vilain monstre, de cette dégoûtante peste du monde, et pourtant, de celui-là, de ce boutefeu, de ce bourreau, de cette bête sauvage, on peut dire qu'après sa mort, aussi vile que sa vie, le noble peuple romain reçut un tel déplaisir en se rappelant ses jeux et ses festins qu'il fut sur le point d'emporter le deuil, comme l'a écrit Tacite, remarquable auteur, sérieux et des plus autorisés, et comme l'écrit lui-même Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire aux éditions Librio. Les conseils de lecture de la Bibliothèque Idéale, c'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine. Conseil lecture, une bibliothèque idéale, comme un palais dans lequel on installe une bibliothèque. Quelques rayonnages de fortune, placer les livres qu'on aime pour les retrouver, car ils nous rappellent ce que nous vivons parfois dans le moment présent.